Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndani Kamara.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Ouverture de la 9e commission tripartite RDC Zambie au commissariat pour les réfugiés. Durant 3 jours, les participants planchent sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés congolais vivant en Zambie. Au Haut-Katanga, la Commission nationale des droits de l'homme dénonce la détention illégale des 120 enfants en conflit avec la loi détenus à la police d'investigation criminelle. Selon la CNDH, ils sont gardés dans de mauvaises conditions depuis un mois. Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, ICG, a publié le jeudi 5 mars dernier une déclaration commune exprimant une inquiétude croissante face à l'escalade de violence dans l'est de la RDC. Cette déclaration a fait l'objet des analyses des personnes qui sont intervenues dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal Parlé du matin. C'est parti avec la 9e réunion de la commission tripartite entre la RDC, la Zambie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés depuis hier mardi à Kolwezi. Durant 3 jours, les participants planchent sur la recherche de solutions durables pour les réfugiés congolais vivant en Zambie. Le point avec Paul Munanga.
L'accord tripartite signé le 28 décembre 2006 entre la RDC, la Zambie et le HCR est le fondement du rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en Zambie. D'après le représentant du HCR en RDC, depuis 2006, des milliers de réfugiés congolais sont rentrés dans leur pays à travers des opérations d'envergure qui ont été menées dans les territoires de Moba, province du Tanganyika, et de Pweto dans le Haut-Katanga jusqu'en 2019. Et entre 2021 et 2025, plus de 11 500 réfugiés congolais, soit plus de 3 000 ménages, ont été rapatriés volontairement en RDC en provenance de la Zambie. Le HCR soutient le gouvernement de la République dans la création des conditions favorables à un retour durable des réfugiés congolais. Achom Pierre, représentant du HCR en RDC, revient sur ses différents soutiens de cette agence dans plusieurs domaines.
Le monitoring de protection des frontières et le renforcement de la protection à base communautaire, la construction et la réhabilitation de certains infrastructures sociales de base telles que les écoles et les centres de santé, l'autonomisation économique à travers la création des chaînes de valeur pour contribuer à la paix et garantit la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus.
Ces assises vont se clôturer jeudi prochain. Depuis la ville de Kolwezi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Une illustration à présent des personnes fuyant l'insécurité. Il s'agit de celle du site des déplacés des plaines Savo, près du centre des négoces de Boulé, situé à 85 km de Bounia. En tout cas, la situation est restée tendue hier mardi aux alentours de ce site. Et pour cause, une adolescente de 16 ans a été touchée par balle lors des tirs attribués aux forces de l'ordre selon des sources locales. Et à la veille, 2 autres personnes auraient perdu la vie dans une fusillade également imputée aux mêmes forces qui auraient aussi incendié des maisons appartenant à certains habitants. Des allégations rejetées par l'armée qui les attribue plutôt aux responsables du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP accusés de tirer profit de la situation d'insécurité. Jean-Claude Lokidile.
Des témoins affirment que le lundi, des miliciens de ce groupe armé infiltrés sur le site auraient repoussé les FARDC vers les abords de cette zone où vivent des milliers de déplacés. Selon un habitant jugé sur place et ayant requis l'anonymat, des tirs ont provoqué la panique et la débandade parmi les déplacés et les habitants des environs. Toujours la veille, des sources locales affirmaient que des éléments des FARDC auraient tiré sur une adolescente d'environ 16 ans et un homme âgé qui ont tous deux perdu la vie. Selon ces mêmes sources, les corps de ces derniers auraient été jetés dans les flammes d'une case incendiée. Face à cette situation, des leaders locaux redoutent désormais une augmentation des décès liés aux maladies, faute d'accès aux soins de santé ou en raison du manque de nourriture. Réagissant à ces accusations, le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo affirme, je cite, que ces allégations sont l'œuvre des manipulateurs du groupe armé CRP qui cherchent à maintenir les déplacés dans cette situation afin de se soustraire aux efforts de paix. Fin de citation. Il condamne l'utilisation d'un site de personnes déplacées placés par des miliciens pour attaquer les forces loyalistes. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Kapi.
Entre-temps, ici à Kinshasa, des leaders communautaires venus de Beni et d'Irumu échangent avec les autorités nationales. Objectif, présenter les préoccupations de la population et obtenir des réponses concrètes du gouvernement alors que l'insécurité continue dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette rencontre de deux jours, soit du 10 au 11 mars, est organisée par Merci Corps et le programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre des programmes Reset et PAGES, comme l'explique Nancy Tambo dans ce reportage.
Dans la salle, l'ambiance est sérieuse. Les leaders communautaires veulent briser la distance entre la population de l'Est et les décideurs de Kinshasa. Les représentants de Beni et d'Irumu expriment leurs principales attentes.
Étant donné que nous traversons 30 ans durant d'insécurité, la seule priorité que la jeunesse peut demander ne peut être que le rétablissement de la situation sécuritaire qui, naturellement, doit être suivi par la restauration de l'autorité de l'État.
Les directeurs du programme Reset, M. Francis Albert, rappelle que les solutions doivent être suivies d'actions concrètes.
La table ronde est le résultat d'un processus antérieur qui est parti du local jusqu'au national. C'est pour nous un nouveau point de départ pour pouvoir aboutir aux résultats concrets.
Du côté du gouvernement, les vice-ministres des Affaires coutumières, Moigny Jean-Baptiste, invoquent un mécanisme de suivi.
Le gouvernement de la République, à travers notre ministère, s'applique à étoffer, affiner et à vulgariser la panoplie d'instruments juridiques et administratifs dédiés à assurer la protection et la sécurisation nécessaires aux entités et leurs populations dans cette partie est du territoire national.
La direction est désormais tracée, mais les défis restent grands. Transformer ces discussions en actions réelles pour amener la sécurité dans les villages de l'Est.
Et puis cette alerte de la Commission nationale des droits de l'homme dans la province du Haut-Katanga. 120 enfants en rupture familiale sont gardés dans de mauvaises conditions dans les installations de la police d'investigation criminelle de Lubumbashi. Depuis un mois, révèle la CNDH. Elle a effectué une descente à la police pour s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent ces enfants. Je vous rappelle que ces enfants ont été interpellés par les autorités de la province dans le cadre de l'opération dénommée Zéro Chégué. Le coordonnateur provincial de la CNDH décrit des conditions et soulève la question de la légalité des détentions de ses enfants. Maître Joseph Kongolo s'exprime au micro de Paulin Monanga.
Sur ces 120 enfants, en majorité, ce sont vraiment des mineurs.
Les enfants n'ont pas droit au bain. Depuis qu'ils sont là, ça fait un mois, ils ne se lavent pas. Ces enfants sont là présents avec des présumés criminels. Les enfants dorment à même le sol, sans couverture, sans matelas. Ils sont dans l'hangar. En fait, à la BCRS, il y a un hangar et puis il y a de ce lit. L'hangar n'a pas de vitre. Ça pose un problème par rapport à leur exposition contre les intempéries. Et les enfants ont déclaré parmi eux, non seulement il y a des malades qui ont été évacués, il y a aussi d'autres malades qui sont là, mais il y aurait aussi des morts. L'information qui n'a pas été confirmée. C'est un cachot de la police. Pourquoi ces enfants sont là? S'il y avait des enfants en conflit avec la loi, leur juge naturel, c'est le tribunal pour enfants. Et les autres enfants qui ne sont pas en conflit avec la loi, ils doivent être retournés dans leur famille, placés dans des centres d'accueil pour enfants à rupture familiale. La CNDH exige au gouvernement provincial qui a amené les enfants là-bas de les sortir de là rapidement, sans condition.
Ici à Kinshasa, magistrats et greffiers du parquet près la Cour des comptes sont à l'école du savoir. Ce parquet organise à leur intention une session de remise à niveau. Ces acteurs judiciaires prennent part à une formation placée sous le thème « Activité et diligence du parquet général dans les processus du jugement des comptes ». Selon le procureur général près la Cour des comptes, Guy Chipata, ce forum d'une semaine vise à permettre à son institution de jouer pleinement son rôle central, à savoir contrôler l'utilisation de l'argent public, juger les comptes des comptables publics et évaluer la gestion des organismes publics afin de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques en RDC. Les propos de Guy Chipata, recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons estimé nécessaire de faire appel à la Cour des comptes du Sénégal, particulièrement le parquet général, pour le partage d'expérience. Parce que nous avons estimé que cette fois-ci, nous devons travailler de manière professionnelle. Nous devons appliquer les normes comme exigent les normes internationales applicables en matière de contrôle, que ce soit juridictionnel et non juridique. Avec ces partages d'expérience, On nous a montré comment recevoir les comptes, comment les apprécier pour qu'ils soient en état d'examen, que le parquet général soit à la hauteur d'assainir la gestion des finances publiques. Et pour ce faire, il faut vraiment être outillé de manière professionnelle. C'est comme ça que nous avons fait appel au parquet général près de la Cour des comptes du Sénégal pour ça. Et nous serons très regardants sur les comptabilités ainsi que les pièces justificatives qui accompagnent ces comptabilités. Donc ça doit être une pièce qui respecte la réglementation en vigueur en République démocratique.
Cette formation est organisée en collaboration avec la Cour des comptes du Sénégal. Nous sommes toujours dans l'ambiance des activités du mois dédié à la promotion des droits des femmes. Et des milliers de femmes étaient dans les rues hier, mardi à Beni, dans le Nord Kivu. But visé, réclamer le retour de la paix à l'est du pays, gage de leur autonomisation. À la mairie de la ville où leur marche pacifique a chuté, un mémorandum a été lu devant les autorités. Elles sont claires, ces femmes demandent à l'État de multiplier les efforts pour la stabilité dans la région. Marc Maroufimbo nous en dit plus.
2 000, 5 000, impossible de dire le nombre exact de femmes qui ont marché ce mardi à travers les rues de la ville de Beni, capitale provisoire du Nord Kivu. Ce qui est certain, c'est qu'elles étaient plusieurs milliers à battre la pavée, diront pour NRA jusqu'à l'hôtel de ville. Parmi elles, des femmes vendeuses, des agents de l'État, des représentantes des organisations féminines, mais aussi des femmes policières de la police nationale congolaise, ainsi que celles de la police de la Monisco UNPOL. Dans leur mémorandum déposé à la mairie de Beni, ces femmes ont décrit leur quotidien caractérisé par une insécurité chronique dont elles sont premières victimes. Elles demandent aux autorités de multiplier les efforts pour le retour de la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Elles insistent également sur leur participation dans les processus de paix en cours au pays, en leur accordant l'accès aux postes de prise de décision, afin qu'elles contribuent efficacement au développement de la communauté. Enfin, ces femmes demandent aux autorités d'appuyer leurs initiatives en faveur de leur autonomisation, ce qui va leur permettre de contribuer efficacement aux charges de leur ménage. Les autorités urbaines qui ont reçu ce mémorandum ont promis de transmettre ces doléances à qui des droits. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Capi.
En rapport toujours avec le mois de la femme, l'Institut supérieur de commerce de Kindu célèbre ce mois à sa manière. Il a organisé une conférence débat lundi dernier et les échanges ont porté sur le leadership féminin, la lutte contre les violences et la discrimination ainsi que sur la nécessité de briser les silences face aux injustices. Ce moment de partage visait à sensibiliser et à éveiller les consciences en faveur du développement durable de la femme. Au cours de cette rencontre, un appel a été lancé aux parents afin d'investir davantage dans l'éducation des jeunes filles. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Parmi les intervenantes, la chef des travaux Esther Apendeki a insisté sur le respect des droits des femmes.
Parmi les violateurs des droits et les gens qui discriminent, nous avons les hommes et les femmes. Voilà pourquoi en premier lieu, on a voulu sensibiliser les hommes pour un changement. Et pour nous-mêmes les femmes, comment se mettre debout et lutter contre les violences, la discrimination dont on est victime.
Cette sensibilisation a particulièrement marqué les jeunes filles présentes qui ont demandé aux parents de considérer les filles et les garçons sur un pied d'égalité. Keren Elonga témoigne.
Cette conférence débat a été utile pour moi du fait que ça m'a aidé à comprendre bien ce qui se passe dans la société et nous demandons aux parents de bien considérer les filles tout comme les garçons au même pied d'égalité.
De son côté, le directeur général de l'ISC Kindu, le docteur Mutuza Sengi, a rappelé l'engagement de l'institution en faveur de la promotion féminine.
L'ISC a toujours eu le temps d'accompagner les femmes en tout et pour tout. Nous avons accompagné les femmes par rapport à leur promotion et certaines étudiantes qui sont handicapées. Et c'est ça notre philosophie.
Signalons qu'avant cette conférence débat, un culte œcuménique d'action des grâces avait été organisé pour marquer le mois de la femme. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Il n'y a pas que le prix de l'énergie qui grimpe à cause de la guerre au Moyen-Orient. Les échanges des missiles entre les États-Unis, Israël et l'Iran bouleversent toute l'économie mondiale et d'autant plus les pays en voie de développement. L'ONU s'en inquiète.
L'invité.
Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, ICG, composé des États-Unis, de la Belgique, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et de l'Union européenne, a publié le jeudi 5 mars dernier une déclaration commune exprimant une inquiétude croissante face à l'escalade des violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration a fait l'objet des analyses des personnes qui sont intervenues dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Michel Lingepo Moulanga, vous êtes avocat, vous êtes sénateur et élu de la Mangala, vous êtes également cadre du MLC, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Comment vous comprenez ces communiqués du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs qui dénonce la violation du cessez-le-feu?
En fait, il faut comprendre que la responsabilité en fait de la mise en œuvre de l'accord en fait qui a été signé entre les parties est pratiquement en fait partagé. Je crois que chacun d'entre nous cherche à pouvoir à faire en sorte que nous puissions en fait observer le respect de la mise en œuvre de l'accord que nous avons signé. Et ce qui a justifié en fait le communiqué qui a été signé en fait par la structure que vous évoquez. Donc il est normal que la structure en question puisse évoquer le respect en fait des engagements pris par les parties, parce que les paroles données et sacré entre les parties. Donc, il est question que chacun d'entre nous puisse observer, en fait, les engagements pris entre les parties. Et c'est normal, moi, je ne suis pas surpris de ce communiqué. Voilà.
Jean-Baptiste Mouine de Kwasekwa, vous êtes député national honoraire, vous êtes premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement SID, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable de la province du Nord-Kivu. Dans leur déclaration, ces pays estiment qu'aucune solution militaire à cette crise n'est possible. Est-ce une logique que les grandes puissances veulent imposer aux belligérants, ou ce sont plutôt les réalités du terrain qui montrent qu'aucune partie ne peut prendre le dessus sur l'autre pour le moment?
D'abord, les réalités sur le terrain. Néanmoins, le groupe de contact ne va pas trop loin. Parce qu'il faut même rappeler au Rwanda que même pour la neutralisation des FDLR, la solution militaire n'est pas possible. Je parlais ce matin aux habitants de Sake, de Mugunga, de Nyiragongo, des territoires sous occupation du M23, mais où les FDLR opèrent même dans les environs de Goma. Et entre-temps, dans l'attendement du groupe de contact international, il faudrait que la RDC s'acquitte de ses obligations de neutraliser les FDLR, n'est-ce pas, que le Rwanda ne parvient pas à neutraliser. Ça fait maintenant plus de 3 ans que le Rwanda occupe Rutshuru, plus d'une année qu'il occupe Goma, Nyiragongo, et disais-je, les affrontements sont perpétuels, quotidiens, dans toutes ces zones-là. Et ces affrontements qui sont aussi attribués aux FDLR. Bref, que l'on dise qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise, je suis parfaitement d'accord. Mais cette compréhension-là doit être adressée non seulement à la RDC, mais également au Rwanda. Si nous voulons trouver une solution durable à la crise, il faut que de toutes parts, de la même manière qu'il est demandé au gouvernement de la RDC à droit de négocier avec l'M23, faudrait-il encore que les groupes de contact amènent aussi le Rwanda. De la même manière que l'Ouganda avait négocié avec les Nalu en 2007, que le Rwanda ouvre des brèches pour que de tous côtés, nous puissions trouver des solutions d'apaisement pour l'ensemble des pays de la sous-région de Grands Lacs.
Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous affirmez que toutes les parties ont renforcé leur position. Dans ces conditions, le cessez-le-feu demandé par les grandes puissances pourra-t-il tenir sans prévoir à la clé des mesures coercitives?
Les mesures coercitives, je m'excuse beaucoup, on n'a jamais vu des sanctions arrêter une guerre. On a vu ce qui se passe au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. On a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. On a vu ce qui se passe en Ukraine, en Iran, etc. Et donc, ce n'est pas les sanctions qui vont arrêter la guerre parce que tout simplement, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Et de plus, il faut savoir que ces sanctions, quand on les prend comme ça, on les prend dans un contexte qui n'est pas du tout favorable aux sanctions. Et on est déjà dans l'action et en sachant que si les rapports de choses changent sur la table, ça sera la levée des sanctions au niveau des revendications. Donc ça ne va pas dans le bon sens. C'est pour ça que, dans mon sens, que ce communiqué est un peu en retard et qu'il ne va rien rapporter et ne va pas inverser les rapports de force tels qu'on les a pas encore vus sur le terrain. Et donc on va voir aussi que leur position va évoluer en fonction du rapport de force sur le terrain.
On a l'impression que tous les processus de paix semblent au point mort. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, professeur Bob Kabamba?
Ben parce que tout simplement l'enjeu n'est pas le dialogue, parce que tous ces processus ce ne sont que des dialogues et des discussions. Au niveau de Kinshasa, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ils acceptent de pouvoir aller à Luanda, aller à Doha et aller à Washington uniquement parce que on a difficulté de pouvoir ne pas aller vers les directives. Mais dans le fond, la logique est du côté de la guerre. Là, je vois du côté de la FCM23, c'est la même chose.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal du matin, coordonnée et supervisée par les Vinbuinga Vubu est mise en ordre par André Mongou. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net.